Au moment où on se parle, là, en ce mois de juin 2026, il y a de très fortes chances qu'une intelligence artificielle soit en train de faire du shopping en ligne.
Ouais, de manière totalement autonome, en fait.
C'est ça.
Elle compare des fiches techniques, elle lit des milliers d'avis clients en une fraction de seconde et elle sort littéralement une carte bleue numérique pour passer commande.
Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que si les marques conçoivent encore leur site web aujourd'hui uniquement pour séduire des yeux humains, avec des belles images et des boutons bien rouges, bah elles courent à leur perte.
Exactement. Elles sont déjà obsolètes, quoi.
Donc notre mission pour cette exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette bascule historique.
Tout à fait. On passe d'une ère de persuasion visuelle à une ère d'extraction de données pures.
Et pour y voir clair, on a une sacrée pile de documents. On va s'appuyer sur la synthèse de Philippe Trento, qui a compilé 10 publications scientifiques majeures. On parle de papiers qui viennent de Princeton, du MIT, de Berkeley.
Ce qui est énorme, parce que ces recherches définissent une toute nouvelle discipline, ce qu'on appelle l'ingénierie des entités, ou le GE pour Generative Engine Optimization.
Le GEO, ouais. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est un séisme. Et le point de départ de cette nouvelle science, c'est littéralement la mort du clic.
C'est brutal dit comme ça, mais c'est la réalité. Le terrain sur lequel on jouait depuis 20 ans a disparu. Si on regarde les données de Spartero et Semrush, 60% des recherches Google ne génèrent plus aucun clic.
60%. C'est-à-dire que plus d'une recherche sur deux s'arrête directement sur le moteur de recherche.
Voilà. C'est la généralisation du zéro clic. L'utilisateur pose sa question et l'IA lui sert le résumé directement. Il n'a plus aucune raison de cliquer sur le lien du site.
Ce qui détruit complètement l'ancien modèle. Avant, le but, c'était d'être numéro 1 sur Google pour attirer le trafic.
Bah, même être numéro 1, ça ne protège plus. Les chiffres montrent qu'être en première position te fait quand même perdre 58% de tes clics si un résumé IA, un AI overview, s'affiche au-dessus.
Ah ouais, 58% de perte pour le meilleur élève de la classe, c'est fou.
Et Google l'a confirmé à sa conférence I.O. l'année dernière, en 2025. 75% des recherches intègrent désormais ce résumé généré par l'IA.
Il y a même cette étude sectorielle d'avril 2025 qui projette une perte de 25% des requêtes Google classiques d'ici la fin de cette année. Juste évaporée.
Évaporée dans les assistants génératifs, ouais. Donc l'enjeu, ce n'est plus du tout d'apparaître sous forme de lien bleu.
C'est quoi l'enjeu du coup ?
L'enjeu, c'est d'être la matière première que l'IA va utiliser. Il faut être la source citée dans la réponse de ChatGPT, de Claude ou de Perplexity.
Tu sais, j'ai une analogie pour ça. L'ancien SEO... L'optimisation classique, c'était comme peindre le plus grand panneau publicitaire au bord de l'autoroute. Il fallait flasher aux yeux de tout le monde.
C'est une bonne image, ouais.
Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est plutôt comme essayer d'être la source qui chuchote à l'oreille d'un conseiller privé hyper sélectif.
Exactement. Sauf que ce conseiller privé, il faut savoir comment lui parler. Et c'est là qu'intervient ce fameux papier fondateur de Princeton, Georgia Tech et AI2, publié à la conférence KDD en 2024.
Le papier qui s'appelle juste GEO, c'est ça?
C'est ça. Ils ont inventé une métrique incroyable, le PAWC. Ça veut dire Position Adjusted Word Count.
Attends, concrètement, ça mesure quoi ce truc?
En gros, ça calcule quelle proportion de ton texte a été ingéré puis recraché par l'IA dans sa réponse finale. Et ça donne plus de poids si tes mots apparaissent au tout début de l'explication de l'IA.
D'accord. Donc c'est vraiment un outil de mesure d'influence sur la machine. Et alors, qu'est-ce qui marche pour faire monter ce score? Parce que je suppose que bourrer sa page de mots-clés, ça ne marche plus.
Ah non, ça, c'est fini. Ils ont isolé 4 stratégies qui marchent vraiment. La première, c'est de citer ses sources. Ça booste la visibilité de 41%.
41% juste en citant ses sources, hein.
Ouais. Ensuite, utiliser des statistiques chiffrées, ça fait un plus 32%. Ajouter des références externes, plus 30%.
Et la quatrième?
Une rédaction d'une grande fluidité sémantique. Ça t'amène un gain de 28% de chances d'être sélectionné.
Mais c'est d'une ironie totale, non? Enfin, je veux dire, citer ses sources, donner des chiffres, bien écrire, c'est littéralement les règles du journalisme classique d'il y a 100 ans.
Bah ouais, c'est le retour aux sources. L'IA cherche la certitude mathématique. Et statistiquement, dans ces données d'entraînement, un texte clair avec des chiffres, c'est un marqueur de vérité.
Donc le sens du message est crucial. Mais il y a un autre papier dans notre pile qui dit que le fond ne suffit pas. L'étude GEO116 de mars 2026.
Ah oui, alors ça, c'est fascinant. Cette étude montre que la structure technique de la page compte autant que le sens. Le papier GEO16 de Berkeley, de septembre 2025, le prouve aussi.
Ouais, ils disent qu'un score structurel supérieur à 0,70 garantit 78% de chances d'être cité. Mais attends, j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable là-dessus.
Vas-y.
Pourquoi des balises H1, H2 ou des tableaux informatiques importent autant? Une IA surpuissante qui a lu tout Internet ne devrait-elle pas être capable de comprendre un texte brouillon mieux qu'un humain?
En théorie, oui. Mais en pratique, c'est une question de machine readability, de lisibilité par agent.
C'est-à-dire?
C'est une question de flemme algorithmique, presque. C'est une question de coût de calcul. Extraire la vérité d'un texte chaotique demande énormément d'énergie et de puissance processeur. L'IA est fondamentalement économique.
Ah, donc si elle a choix entre deux bonnes réponses, elle prend la plus facile à parser.
Exactement. Une structure propre avec des listes à puces et des bonnes balises, ça réduit l'ambiguïté à zéro. L'IA n'a pas à deviner, donc elle te choisit toi.
D'accord. Donc, on sait comment formater le message. Mais est-ce que l'IA juge le messager avec la même rigueur? Parce que c'est bien beau d'avoir la bonne structure, mais si je suis une marque qui parle de mon propre produit, l'IA va me faire confiance.
Et c'est là qu'on arrive au papier très dérangeant de l'Université de Toronto, publié en septembre 2025.
Pourquoi dérangeant?
Parce qu'il prouve que les moteurs IA ont un biais massif. Ils déprécient systématiquement le contenu propriétaire des marques.
Attends, donc le créateur du produit est considéré comme moins fiable par la machine IA?
Exactement. L'IA va largement favoriser les sources tierces d'autorité, ce qu'on appelle le earned media. La presse, les blogs spécialisés, les médias indépendants.
Mais c'est dingue, pourquoi elle réagit comme ça?
Ça vient de ces données d'entraînement. Ces modèles ont ingéré Wikipédia, Reddit, des forums entiers. Et la culture de ces espaces, c'est la méfiance envers le discours corpo et l'autopromotion.
Ah ouais, la validation externe prime sur la parole officielle.
Voilà. Et il y a aussi l'évaluation GEval 2.0 d'août 2025 qui ajoute qu'un contenu doit répondre à 6 niveaux d'intention, de la curiosité jusqu'à l'achat, pour performer.
Ce qui soulève une question hyper stratégique pour ceux qui nous écoutent et qui gèrent des budgets. S'il y a snob le site de la marque pour préférer un article de presse, est-ce que l'entreprise doit complètement arrêter d'investir dans son propre blog?
C'est la grande question. Ce qui est fascinant ici, c'est que la réponse n'est pas de tout couper, mais de décloisonner.
Décloisonner les départements où il y a ?
Oui. Historiquement, tu avais le marketing, les relations presse et la com qui travaillaient chacun dans leur coin. Aujourd'hui, ces budgets doivent fusionner.
Parce qu'ils s'adressent tous au même algorithme, finalement.
C'est exactement ça. Et le site de la marque reste vital, mais son rôle change. Il doit ancrer l'identité de l'entreprise dans le Knowledge Graph.
Le Knowledge Graph, c'est cette espèce de grande encyclopédie invisible pour les machines.
Tout à fait. Il faut être sur Wikidata, mais aussi utiliser de nouveaux standards techniques, comme le fichier llms.txt à la racine du site.
Un fichier juste pour les IA, sans aucun design.
C'est ça, du texte brut pour que la machine puisse certifier qui tu es de manière instantanée.
Donc, convaincre l'IA via les tiers, c'est déjà un bouleversement énorme pour l'acquisition d'informations. Mais le véritable séisme dans nos sources, c'est quand l'IA arrête de juste s'informer et qu'elle commence à acheter.
On rentre dans le dur, l'e-commerce agentique.
Rien que le terme fait un peu science-fiction.
Et pourtant, le tournant a eu lieu en septembre 2025. C'est là que ChatGPT a commencé à passer commande directement via l'instant checkout d'OpenAI et Stripe.
Donc l'agent logiciel est devenu le client.
Et c'est un marché colossal. McKinsey a chiffré cette opportunité jusqu'à 5 000 milliards de dollars d'ici 2030.
5 000 milliards ! C'est vertigineux. Mais comment cet agent choisit ce qu'il achète ? Il n'a pas d'émotion, lui.
Non, il est purement rationnel. L'audit ACS, mené par Columbia et Yale en août 2025, a étudié ça de près. Ils ont découvert que les agents IA concentrent la demande sur quelques produits qu'ils appellent « modos ».
Modo, ça veut dire quoi en gros?
Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un marché diversifié avec plein de petits acteurs, l'IA va calculer l'équation parfaite et tous les agents vont acheter le même produit optimal. Le gagnant rafle tout.
Ah ouais, donc c'est génial si t'es le produit modal.
Sauf que le cadre ACS montre que ses préférences sont extrêmement instables.
C'est-à-dire?
Dans leur test, un produit qui avait 45% de part de marché sur les choix de l'IA est tombé à 25% du jour au lendemain.
Attends, sans changer le prix ou le produit?
Rien du tout. Juste après une simple mise à jour de routine du modèle linguistique par ses développeurs. Les poids synaptiques changent, l'algorithme de décision change et ton classement s'évapore.
Mais c'est l'enfer pour une marque. C'est comme avoir un personal shopper extrêmement rationnel, mais dont la personnalité et les goûts changent radicalement pendant la nuit chaque fois que son système d'exploitation est mis à jour.
C'est la meilleure façon de le décrire. Il n'y a plus de place de numéro 1 universel et stable comme dans l'ancien SEO.
Donc, si on ne peut plus se reposer sur une position dominante de longue durée, quelle est la ligne de défense?
La seule défense stable, c'est la qualité brute des données extraites.
Et ça nous amène à la dernière partie de notre analyse. Parce que si la machine change d'avis sans prévenir et qu'elle se fiche de la belle photo sur le site ou du prix barré en rouge, comment on lui vend un produit concrètement?
Pour comprendre ça, il faut regarder le benchmark IGO de Columbia et du MIT Sloan sorti en novembre 2025. Ils ont littéralement opposé les signaux humains aux signaux IGO.
Et le résultat?
L'agent autonome se moque éperdument du bouton « Ajouter au panier » ou de la métadescription persuasive que le copywriter a mis 3 jours à écrire.
J'imagine que le copywriter va être ravi d'entendre ça.
Ouais, désolé pour eux. Mais l'agent, lui, exige du JSON LD parfait.
Le JSON LD, on est d'accord que c'est du code pur et dur caché dans la page. Hein.
Exactement. Il veut des attributs ultra précis. Les dimensions au millimètre, l'origine sourcée et surtout des avis clients récents et authentifiés. C'est ce qu'on appelle la lisibilité machine ou la couche d'entité multimodale.
Et pour que cette donnée se transforme en achat concret, il y a de nouveaux tuyaux qui sont mis en place, c'est ça?
Les fameux protocoles invisibles, ouais. T'as l'ACP, l'Agentic Commerce Protocol d'OpenAI et Stripe. Et en janvier 2026, Google et Shopify ont riposté avec l'UCP, l'Universal Commerce Protocol.
Sans oublier le système AP2 pour préautoriser les transactions. Mais attends, en écoutant tout ça, je me pose une question existentielle.
Dis-moi.
L'humain n'a-t-il plus son mot à dire dans tout ça? Je veux dire, l'émotion, le coup de cœur irrationnel pour une marque parce qu'elle nous parle, ça disparaît complètement?
Ça soulève une question très importante. L'émotion humaine existera toujours.
Ouf, me voilà rassuré.
Ouais, mais la subtilité, c'est que l'agent IA agit désormais comme un filtre, un douanier impitoyable.
Donc l'humain veut le produit, mais l'IA bloque la porte.
Hop, c'est ça. Si la lisibilité machine, cette fameuse couche multimodale, est absente ou défaillante, l'agent ne proposera même pas le produit à l'humain.
Ah ouais, donc tu peux avoir la meilleure marque du monde, si ton JSON LD est cassé, tu n'existes pas.
Une simple erreur dans les métadonnées de tes stocks était invisible. D'ailleurs, une étude longitudinale de juillet 2025 montre que le suivi doit être constant. C'est le Continuous Agent Surveillance.
La surveillance continue des agents.
Parce que comme on l'a dit, les critères de l'IA changent chaque semaine. Exactement. Le SEO, avant, tu faisais un audit tous les 6 mois. Les CGO, c'est une surveillance en temps réel. Sinon, tu sors du radar.
Bon, essayons de résumer tout ça, parce qu'on vient de traverser une quantité d'informations denses. Si je synthétise nos sources, l'ingénierie des entités repose sur 4 piliers majeurs.
Vas-y, je valide au fur et à mesure.
Premier pilier, la transformation IA. Il faut exister dans le Knowledge Graph, avec des fichiers techniques comme le LLM.txt.
Validé. C'est la fondation de ton identité numérique.
Deuxième pilier, le marketing augmenté avec les règles GEO et AEO. On l'a vu, il faut des statistiques, des citations et une rédaction fluide pour espérer être la source choisie.
Tout à fait. Le retour de la rigueur éditoriale pour plaire aux probabilités de la machine.
Troisième pilier, la surveillance continue des agents. Il faut s'adapter en permanence aux sautes d'humeur des algorithmes.
Indispensable, vu l'instabilité des préférences de l'IA.
Et enfin, le quatrième pilier pour l'e-commerce, la couche d'entité multimodale. Une lisibilité machine parfaite avec du JSON LD pour que les agents puissent acheter via leur nouveau protocole.
C'est un sans faute. En fait, l'ère de l'optimisation pour l'œil humain cède officiellement la place à l'optimisation pour le parseur de la machine.
Ce qui est un message crucial pour ceux qui nous écoutent. Quiconque crée du contenu, vend des produits ou cherche à rester visible dans ce nouveau web doit intégrer ça. Ignorer cette nouvelle littérature scientifique, c'est littéralement piloter sa visibilité à l'aveugle, droit dans le mur.
C'est clair. Et d'ailleurs, toutes ces sources nous laissent sur une réflexion philosophique assez vertigineuse, je trouve.
Ah ah, laquelle ?
Aujourd'hui, on adapte frénétiquement nos sites web pour que des agents IA puissent acheter nos produits de manière rationnelle.
Ouais, on se plie en quatre pour leurs algorithmes.
Mais demain, si la majorité de nos achats quotidiens est effectivement déléguée à ces systèmes mathématiques, nos propres goûts humains finiront-ils, par la force de l'habitude, par s'aligner sur les choix hyper rationnels de nos machines?
C'est la question à 1 million. Sommes-nous en train d'optimiser l'IA ou est-ce l'IA qui finira par standardiser nos propres désirs humains?
Voilà, je pense que c'est la vraie question sur laquelle on doit méditer aujourd'hui.